Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Les jeunes ne veulent pas travailler, c'est bien connu. D'ailleurs, la génération Z est addict aux réseaux sociaux. Sans parler des boomers, des millennials ou de la génération X. Qu'importe votre année de naissance, vous êtes forcément dans l'une de ces catégories où vos défauts supposés sont celles et ceux des autres de votre âge. C'est en tout cas le message qui circule massivement autour de nous. Mais ces distinctions générationnelles ont-elles un sens scientifique? Que dit la sociologie et les enquêtes de terrain sur les réalités des jeunes d'aujourd'hui et d'hier? Élément de réponse dans cette émission. Avec nous à distance, nous recevons Clément Réversé. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes donc maître de conférence en sociologie à l'université Jean Jaurès de Toulouse, université 2, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Cette émission est en co-animation avec toi, Jérémy, et justement, tu t'es plongé dans les travaux de notre invité.
Oui, bonjour, j'ai notamment découvert votre livre adapté de vos travaux de thèse, La vie de Cassos, jeunes ruraux en survie aux éditions Le Bord de l'eau et sorti en septembre 2025. Vous y menez une enquête de sociologie auprès de ces jeunes vivant en campagne. Et à l'approche de Noël, vous sortez également le livre « Petit guide de survie aux discussions des repas de famille », un ouvrage collectif donc, qui n'est pas destiné à servir de projectile, c'est marqué explicitement dans la préface, et que vous coordonnez toujours aux éditions Le Bord de l'eau. Le concept est simple, une entrée avec une phrase comme « Les jeunes ne veulent plus travailler », ils profitent du RSA plutôt que de travailler, ou les trans, c'est une mode, puis un texte avec des ressources et des arguments pour contrer l'ignorance et la bêtise sur ce sujet.
Et nous entendrons également deux chroniques de nouvelles bénévoles avec nous en plateau. Elia, salut Elia.
Bonsoir.
Tu vas nous raconter une expérience intergénérationnelle que tu as vécue, toi, c'est ça?
Exactement.
On en parlera juste après la première musique. Et Elodie, toi tu as exploré un sujet scientifique encore en plein bouleversement, la recherche sur la transmission des traumatismes entre les différentes générations. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
Alors le 19 novembre 2025 dernier, le magazine L'Obs titrait « La grande transmission qui profitera du fabuleux héritage des boomers » avec en une un énorme gâteau. Il y a quelques jours, le journal Le Monde s'interrogeait sur une manifestation contre l'insécurité et la corruption qui est menée au Mexique par la fameuse « Génération Z » à grand renfort de drapeaux One Piece et de vidéos TikTok. Il y a un an, en octobre 2024, le magazine Sciences Humaines sortait un dossier sur « Le clash des générations ». Alors, au-delà des livres de management et des théories plus ou moins fondées, que nous réserve cette fameuse notion de génération? Clément Réversé, est-ce qu'on peut commencer par parler de ce concept? Comment on peut le définir? Et déjà, est-ce que c'est pertinent en sociologie?
Alors, en sociologie, on fait la différence entre la notion de génération et les âges de la vie. C'est-à-dire que il y a des âges qui se succèdent, on est enfant, adolescent, jeune, adulte, et ça a des générations différentes. Il y a plein de générations qui ont été jeunes, par exemple, et le fait d'être jeune pendant les 30 glorieuses, ceux du baby boom, cette jeunesse est une génération particulière. Pour ce qui est de l'emploi de la notion de génération, il faut faire assez attention, puisqu'on a tendance à généraliser, et ces généralisations nous apprennent la sociologie, il faut s'en méfier. de dire la génération Z fonctionne de telle manière, les boomers fonctionnent de telle manière. Pourtant, ce qui est vrai dans le terme de génération, c'est que effectivement, on a des moments historiques qui sont partagés. On peut penser récemment au confinement qui a été un moment particulier dans notre histoire. On a aussi des référentiels culturels, des référentiels technologiques, être né ou pas avec Internet, et tous ces éléments là nous permet de comprendre qu'il y a ces effets de génération qui sont, faut le garder en tête, des lignes un peu abstraites qu'on a inventées, puisque du jour au lendemain, du 31 décembre au 1er janvier, les générations ne se bousculent pas d'un coup, tout ne change pas de manière aussi radicale.
Eh bien, donc classe d'âge, du coup, être un terme qui semble plus adapté à vous entendre. Donc vous, dans vos travaux, le point commun, en tout cas celui qui semble émerger, c'est justement cette classe d'âge, la jeunesse. Est-ce que vous pourriez un peu nous donner les références que l'on associe aujourd'hui à la jeunesse ?
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeunesse, c'est un âge que l'on a tendance à définir par rapport à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. La jeunesse, c'est pas l'enfance et c'est pas la vie adulte. C'est pas l'enfance parce que le jeune, contrairement à l'enfant, il devient autonome. Ça devient un individu à part entière. C'est cette période où on a parfois des expressions un peu douteuses vestimentairement. Moi, j'étais dans la période de la tectonique, par exemple. Et où, en tout cas, on devient un individu à part entière. On choisit ses pratiques, on choisit la manière de s'habiller, de s'exprimer, nos amis, notre musique. Alors, influencé, bien sûr, par tout un tas de choses, mais on devient un individu à part entière. On devient autonome. Le jeune, par contre, par rapport à l'adulte, ce qui va le différencier, c'est qu'il n'est pas encore dépendant. Le jeune est encore dépendant financièrement de ses parents, d'un système social, etc. Et donc, c'est une période de formation et une période de tension dans laquelle on va essayer de pousser les cadres qui nous sont un petit peu imposés. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que tout d'abord, les jeunes sont de plus en plus vieux. On reste jeune aujourd'hui jusqu'à presque 30 ans. À Québec, je participais à un colloque où les jeunes chercheurs étaient tous les chercheurs de moins de 40 ans, ce qui m'arrangeait très bien. Et donc, cette notion d'âge, elle est de plus en plus longue parce qu'on met de plus en plus de temps à s'insérer, à se stabiliser. Et en même temps, ce qu'on remarque et qui est vrai aujourd'hui, c'est une certaine précarisation de la jeunesse. On a un auteur, Camille Penny, qui nous parle d'une marée montante de la précarité. Donc la jeunesse, c'est cette phase particulière de transition qui aujourd'hui fait face à un contexte assez dégradé.
Alors, dans votre enquête, justement, vous indiquez que les jeunes que vous rencontrez partagent les références, le langage et certaines aspirations d'une jeunesse qui est un peu idéalisée, mais cela ne correspond pas vraiment à leur quotidien, ils se sentent un peu bloqués. Est-ce que vous pourriez un peu nous donner le parcours type ou quelques parcours emblématiques des jeunes que vous avez enquêtés ?
Oui, le point sur lequel il faut faire attention, c'est de ne pas se dire qu'il y aurait des jeunesses qui seraient radicalement opposées, la jeunesse des villes, la jeunesse des champs, par exemple. Le fait est que aujourd'hui, les jeunes écoutent peu ou prou la même musique, regardent les mêmes vidéos, ont les mêmes applications. Alors, à quelques éléments près. Mais moi, dans mon livre La vie de Casso, ce qui m'intéressait, c'était des jeunes qui avaient un stigmate, ils sont mal vus dans le coin, ils sont stigmatisés comme étant des jeunes cas sociaux, parce qu'en général, ils décrochent scolairement, ils n'ont pas de diplôme, leur famille a déjà souvent une mauvaise réputation. Ils n'ont pas de capitaux économiques, ils n'arrivent pas à s'insérer professionnellement. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir finalement une sorte de pointe la plus extrême de la domination auprès de ce public-là. Finalement, vivre en dehors des espaces urbains, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de diplôme, de ne pas toujours avoir de voiture, de ne pas avoir d'amis. Et ça, c'est des parcours qui font partie du paysage de la jeunesse aujourd'hui, mais qui sont assez difficiles à voir parce que très largement oubliés dans le discours politique actuel.
Et en plus, ce que je trouve très marquant aussi dans les portraits que vous dessinez, c'est qu'il y a cet aspect de vouloir devenir très vite adulte, et en même temps de pas réussir et donc du coup de ne pas vivre vraiment ce qui fait dans beaucoup d'esprit la jeunesse avec justement ces rencontres amicales, ces temps plus légers. Est-ce que finalement ils sont un peu devenus adultes de manière brutale?
Oui, le temps de la jeunesse tel qu'on le comprend aujourd'hui, c'est de plus en plus un temps estudiantin. C'est le temps qu'on passe à la fac et ces jeunes finalement ne font pas cette expérience-là parce qu'ils décrochent très tôt et donc on a des attentes presque adultes envers eux. On considère que parce qu'ils ont décroché à 16-17 ans, soit ils doivent retourner en formation, puisqu'on a une obligation de formation depuis 3 ans maintenant, jusqu'à 4 ans, jusqu'à 18 ans, soit on attend d'eux qu'ils aillent travailler. Et le fait est qu'ils souhaitent eux-mêmes s'insérer dans cette vie adulte de manière très rapide, mais ils ont des regrets. Le fait de pas avoir eu la sensation d'avoir partagé cette ambiance, vécu tous ces éléments-là avec leurs amis, ça crée des regrets et c'est assez triste à observer puisque finalement on sent qu'ils ont été poussés très rapidement vers cette vie adulte, qu'on a des attentes envers eux qui sont pas toujours justes, à mon sens. Je trouve que même si un jeune veut commencer à travailler, avoir des attentes comme s'il avait une trentaine d'années alors qu'il en a 16, c'est parfois très très difficile à saisir.
On entend ces attentes envers les jeunes et on pense aussi aux critiques. La jeunesse est souvent très critiquée avec cette fameuse phrase de « les jeunes ne veulent plus travailler ». Vous avez écrit un article dans The Conversation qui s'appelle « France, une jeunesse décadente » avec un point d'interrogation. Et vous commencez cet article en faisant remonter cette critique de la jeunesse à Socrate, voire aux Babyloniens, puisque je cite cette tablette d'argile babylonienne que vous mettez dans l'article, « La jeunesse d'aujourd'hui est pourrie jusqu'au tréfonds, mauvaise, irreligieuse et paresseuse. Elle ne sera jamais comme la jeunesse du passé et sera incapable de préserver notre civilisation. » Cette sentence, elle semble irrévocable, des Babylones, c'est dire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau quand même dans cette jeunesse ou est-ce qu'elle est destinée à être critiquée jusqu'au bout et jamais être assez bien?
Je trouve vraiment intéressant de se dire qu'en fait on peut remonter quasiment à chaque génération et toujours trouver des critiques envers la jeunesse. Les jeunes sont toujours moins bien qu'avant. Et la preuve, c'est que les jeunes qui arrivent aujourd'hui sont certainement moins bien que je l'étais et pour continuer comme ça de génération en génération, on peut trouver des articles par exemple sur le fait de pas vouloir travailler. Qui remonte jusqu'au début du 20e siècle, pardon, et par décennies, alors hormis pendant les années 40, mais mettons que l'Europe était occupée à d'autres choses pendant les années 40, on peut trouver des articles qui nous disent que les jeunes ne veulent plus travailler. Et les études en management arrêtent pas de répéter ça. Mmh. Aujourd'hui sur la génération Z, bientôt sur la génération Alpha. Moi, il y a quelques années, quand je lisais ça, c'était sur la génération des millennials, ce qu'on appelle aussi la génération Y ou Y en anglais, parce qu'elle pose trop de questions. Bref, on peut remonter de génération en génération sur le fait que les jeunes ne veulent pas travailler, qu'ils seraient de plus en plus violents, et que finalement, c'est la décadence certaine de notre société. Moi, la question que je me pose en voyant ça, c'est de me dire soit effectivement on va sur une décadence terrible de notre société puisque ça fait 2600 ans que les jeunes sont de pire en pire, soit peut-être il faut qu'on fasse un pas de côté et qu'on accepte que les choses évoluent et que cette critique est persistante. Il y a dans les années 20-30 un pédagogue polonais pour lequel j'ai beaucoup d'admiration qui s'appelle Janusz Korczak et qui se demandait un petit peu cette question, pourquoi la jeunesse pose autant de questions de crispation. Et lui, ce qu'il disait, c'était si on est autant stressé sur le devenir de la jeunesse, c'est parce qu'elle va être notre bâton de vieillesse, sur lequel on va pouvoir se reposer. Et donc, c'est essayer de savoir finalement si on va pouvoir reposer tout ce qu'on a construit et puis son vécu sur les jeunes qui viennent. Le fait est que aujourd'hui, malgré des discours extrêmement alarmistes, la jeunesse va bien mieux que ce qu'on voudrait bien croire.
Et cette jeunesse d'ailleurs de 2025, j'ai l'impression qu'il y a aussi une nouveauté. Alors peut-être que c'est moi qui ai envie de me croire jeune encore et que j'ai envie de m'inclure là-dedans, avec peut-être des nouvelles valeurs, notamment l'environnement qui n'était peut-être pas présent avant. Donc est-ce que cette jeunesse, malgré toutes les jeunesses auxquelles elle succède, a un truc un peu nouveau? Est-ce qu'il y a quand même une évolution?
Oui, en partie. Alors, il ne faut pas considérer que, comme on pourrait le croire, que les jeunes, par exemple, ne veulent plus travailler, sont des feignants, sont de plus en plus violents. Et si on regarde les différentes études générationnelles, longitudinales, qui nous permettent de savoir l'évolution de ces considérations, ce qu'on remarque, c'est que, de manière générale, les choses changent peu. C'est une loi sociologique, c'est que on a rarement de grands moments de rupture qui nous font changer considérablement les choses. C'est les changements de société vont sur le temps long. Et dans les valeurs, par exemple, on pourrait croire que les jeunes sont moins engagés. C'est faux, ils le sont différemment. On pourrait croire qu'ils sont moins travailleurs. C'est faux aussi, les travaux de Dominique Méda le mettent en avant. On pourrait croire qu'ils sont de plus en plus violents. Moi, j'ai mis en avant dans un de mes livres que c'était aussi une idée reçue. Par contre, on a des éléments sur lesquels on peut avoir des variations, effectivement, avec les générations précédentes. Les jeunes sont, de manière générale, moins concernés par les questions liées à l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais moins que les autres générations. Et par contre, ils sont plus engagés sur les questions sociales, et de justice sociale et environnementale. Ça, c'est certain. Ça ne veut pas dire qu'on a un grand changement, mais finalement que, eh bien, on a des crises actuelles qui font que, ben, on va avoir tel ou tel engagement qui est de plus fort. Et il est certain que la crise environnementale, c'est une crise à laquelle va devoir faire face bien plus la génération Z et la génération Alpha que la génération des boomers. Donc c'est aussi en partie une raison pour laquelle c'est une lutte qui est plus importante aujourd'hui.
On retiendra quand même que les jeunes sont engagés, moins violents, travailleurs. Ça fait du bien de l'entendre et de le répéter. On retombe un instant dans les années 90-2000 avec Miss Ben et son titre Magical 8 Bits. Et on revient à l'interview juste après.
Des sciences au Labo des Savoirs.
C'était Magical 8 bits de Miss Ben et nous sommes de retour en plateau avec Clément Réversé, maître de conférences en sociologie et auteur notamment de L'avis de Cassos et Petit guide de survie aux discussions des repas de famille, tous deux sortis fin 2025 et disponibles en librairie actuellement. En première partie, nous nous sommes concentrés sur la jeunesse, votre sujet de recherche principal, mais pour mieux englober ce concept de génération, ses frottements mais aussi ses entraides, il existe d'autres concepts et laissons la parole à Elia qui va nous partager son expérience d'atelier intergénérationnel.
Et oui Sophie, il faut remonter à 2019. Je fêtais tout juste mes 18 ans et j'étais en terminale. J'avais besoin d'argent et surtout de faire quelque chose qui avait du sens. Et c'est ainsi que je me suis dirigée vers la plateforme du service civique et après un court entretien d'embauche, c'était parti pour la grande aventure. Bon, je vais aller droit au but. C'est l'une des meilleures expériences de ma vie et c'est sans aucun doute la première en termes d'enrichissement humain. Sur le papier, j'étais aide aux soins de suite gériatrique, ce qui est un mot un peu fourre-tout pour dire que j'étais en soutien au personnel médical. En effet, il y a une grande crise au niveau de la main-d'œuvre dans les structures médicales et les EHPAD en sont particulièrement touchés, d'où le recours aux services civiques comme moi à l'époque. Mon rôle, pallier la solitude que ressentent les personnes âgées et créer du lien à travers des animations au sein de la résidence. Parfois, nous organisions des activités en partenariat avec les écoles primaires locales. Nous étions donc trois générations réunies, et même quatre, avec l'animatrice référente qui était ma tutrice tout au long de cette mission. C'est ainsi que je me suis retrouvée à faire du gâteau avec Germaine, 90 ans, et Emma, 6 ans. Vous avez déjà essayé de cuisiner avec votre petite nièce ou votre grand-mère? Eh bien là, c'était les deux en même temps. Résultat, beaucoup de rires et des pâtisseries étonnamment réussies. Un jour, on m'a demandé de construire une activité autour du numérique, avec un ordinateur. J'étais un peu circonspecte, jusqu'à avoir une idée. Un résident, Monsieur Durand, s'est porté volontaire. Je lui ai montré Google Earth et ses images satellites. Il était émerveillé de pouvoir voir le monde d'aussi près, alors qu'il n'avait ainsi dire jamais bougé de son petit village natal, qu'il m'a d'ailleurs montré en détail. Il était facteur et il m'a raconté, ému, tout plein d'histoires de vie pendant que je faisais défiler les routes de sa jeunesse. Je passais beaucoup de temps à écouter des personnes qui n'ont plus d'oreilles attentives pour jouer ce rôle. C'est comme ça que parfois, j'entendais un peu toujours les mêmes histoires, car certains résidents oubliaient qu'ils me l'avaient raconté la veille, et l'avant-veille, et l'avant-avant-avant-veille. Comme Monsieur Dupont, grand fan de mycologie, qui adorait me raconter la fois où il avait découvert ce champignon qui le fascinait tant. Mais ça ne me dérangeait pas, bien au contraire. Parce que c'est aussi ça, maintenir le lien entre les générations, lutter contre la solitude des personnes âgées en apprenant les uns des autres. On me disait souvent « tu vas te lasser d'entendre les mêmes histoires ». Et franchement non, elle me manque un peu parfois. Quand j'ai annoncé mon départ pour l'université, Madame Martin a pleuré, et j'ai pleuré aussi. Et tout le monde a fini par verser sa petite larme. Cette expérience m'a tellement marquée que j'ai décidé de me réengager cette année dans le cadre du projet Une année en gériatrie, avec l'association étudiante nantaise Anofel. Pouvez-vous aussi vous engager à Anofel ou ailleurs? Il existe également des colocations entre retraités et étudiants partout en France. Une solution qui permet à la fois d'amortir les coûts conséquents d'un logement, tout en vivant de façon conviviale avec nos seniors. Ne laissez pas seuls vos aînés, ils ont besoin de vous, et vous avez aussi besoin d'eux. Ils sont des bibliothèques vivantes, et il est de notre devoir de transmettre ces connaissances et faire perdurer leur mémoire.
Merci beaucoup Elia pour ce témoignage super touchant, et qui donne envie de se lancer. Clément, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces expériences intergénérationnelles?
Oui, et je pense qu'elles sont importantes. On a la critique, par exemple, du hockey boomer qui revient fréquemment, et on peut l'entendre. Il y a pas de souci. Mais le fait est que aujourd'hui, on a besoin d'un travail intergénérationnel. Si on prend le cas de la jeunesse, c'est la conclusion de Salomé Sacquet dans son livre Sois jeune et tais-toi. Ce qu'elle dit, c'est que finalement, on a besoin de faire un travail commun, un travail intergénérationnel avec la jeunesse, notamment, qui est une minorité au sens statistique et qui se retrouve dans des situations de précarité et puis d'autres âges de la vie qui sont aussi vulnérables. Donc, tout à fait.
Alors, vous avez cité le livre de Salomé Sacquet, mais il y en a un autre qui est très instructif aussi pour explorer ces rapports, c'est le vôtre. La vie de Cassos, dans lequel vous présentez quelques interactions entre générations. Notamment puisque les jeunes que vous rencontrez vivent encore, pour certains, chez leurs parents. Cette famille, c'est le lieu de plusieurs sentiments un peu contradictoires. On peut y voir une grande loyauté, de la reconnaissance, là où l'école et le travail n'en emmènent pas beaucoup, mais aussi des incompréhensions. Dans les discussions que vous rapportez dans votre enquête, les jeunes disent eux-mêmes et elles-mêmes avoir une vie de cassos, je cite. Il semble souvent que c'est une forme d'héritage qui est liée aux difficultés économiques de leurs parents. Et à de nombreuses occasions, il est fait aussi mention de violence. Et vous précisez explicitement que ce n'était pas le guide d'entretien, que c'est un sujet qui a émergé un peu spontanément. Est-ce que vous avez pu un peu percevoir, est-ce que vous avez une idée sur la jeunesse qu'ont vécu les parents de ces jeunes? Est-ce qu'ils s'y retrouvent?
Je crois qu'il y a un discours, en tout cas, de la part des parents de mes enquêtés, qui est sur une sorte de méritocratie, de dire nous on a réussi, et donc bah, toi aussi. Tu pourras le faire. Le fait est que les conditions, ben, en avançant de génération en génération, elles deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus précaires. Il y a des choses qui changent sur les mentalités, mais il y a aussi malheureusement des invariables. C'est ce que j'ai pu repérer sur la violence. Des jeunes qui considéraient que, par exemple, on pouvait mettre des claques ou des coups de poing à vertu éducative, selon eux, et que ça ne faisait pas partie de la violence. Donc il y a quand même ces phénomènes de reproduction sociale, hein, qui sont très bien documentés par la sociologie. On observe quand même des choses qui évoluent. Là, je ferai référence à une enquête qu'on est en train de mener, qui n'est pas encore parue, mais avec Arnaud Alessandrin, sur être un jeune LGBT en milieu rural. On voit pour le coup, dans ce cas précis, que on a de plus en plus d'ouverture sur ces questions-là, qu'on a une acceptation de plus en plus importante de la part de la famille. Donc, les choses changent lentement. Les luttes LGBT, c'est des luttes qui ont 50, 60, 70 ans aujourd'hui en France. Mais c'est assez satisfaisant de voir que malgré un contexte difficile et de précarisation, des fois des familles qui sont un petit peu délétères à l'avenir de ces jeunes, on peut se retrouver avec des bouchées heureuses, heureusement.
Et au-delà des familles, il y a d'autres adultes qui tiennent un rôle très important dans leur quotidien, dans l'enquête. C'est notamment les employeurs ou les personnels des services publics d'accompagnement de la jeunesse, comme les missions locales. Est-ce que ces adultes sont des adultes ressources pour eux? Est-ce qu'ils vivent un peu dans le même monde qu'eux? Comment ça se passe?
Alors, c'est certainement des adultes ressources. Je suis pas certain pour autant qu'ils vivent dans le même monde. Parce que beaucoup, en fait, n'ont ne serait-ce que pas fait l'expérience de la précarité, de la vulnérabilité. Là, quand je parle de ces situations-là, parce qu'on a toujours, on a tendance, encore une fois, à dire que la jeunesse se plaint énormément. Je parle de jeunes qui doivent se prostituer, de jeunes qui ne mangent pas, de jeunes qui vivent dans le froid en hiver. C'est une réalité aujourd'hui de la jeunesse. Donc, ils ne partagent pas ces vécus. Par contre, effectivement, les missions locales, auxquelles je suis très attaché, sont des ressources évidentes pour ces jeunes, qui sinon se retrouvent assez isolés, notamment parce que les adultes, entre guillemets, dans le coin dans lequel ils vivent, ont une mauvaise vision des jeunes de manière générale, et d'eux plus particulièrement. L'anecdote de terrain que j'aime bien raconter, c'était un élu avec qui j'avais fait un entretien et qui me raconte la tristesse qu'il avait de voir les jeunes partir du village en me disant que c'était terrible, alors qu'il avait fait, il avait mis une salle informatique dans la mairie pour les jeunes et qu'il avait fait un skatepark, les jeunes partaient quand même. Et quand on avance dans l'entretien, au bout d'un moment, il m'explique que les jeunes, finalement, sont la cause de tous les soucis qu'il y a sur le village. C'était ces petits cons qui sont sur leur scooter et qui nous embêtent, qui fument du chiffon, qui mettent la musique trop fort. Et il ponctue l'entretien en me disant « Un jour, je vais prendre mon fusil et tirer en l'air pour les faire fuir.
Okay. »
Je trouve que c'est... C'est extrêmement révélateur de la manière dont on peut percevoir la jeunesse aujourd'hui. Qui est une ressource, on a besoin d'elle, il faut qu'elle reste, il faut qu'elle soit active, etc. Mais en même temps, il faut pas qu'elle fasse de musique, il faut pas qu'elle boive, il faut pas qu'elle soit trop présente. Et donc, il y a, c'est très vrai, hein, cette idée de sois jeune et tais-toi. Et dès que finalement elle vit, elle fait vivre aussi les campagnes. On se demande pourquoi l'espace public est en train de mourir en milieu rural, c'est une des raisons. et ben finalement on la dénonce. Et ça, c'est le grand paradoxe de la jeunesse, qui est à la fois l'avenir, la possibilité, la beauté, le monde des possibles, et en même temps l'ensauvagement, le danger, la drogue, le stupre, etc. Je trouve que c'est un marqueur fort de la manière dont le monde adulte peut percevoir ses jeunes et puis la jeunesse de manière générale.
Je trouvais qu'il y avait un autre exemple marquant. Je crois que c'était un chef d'entreprise retraité. Vous racontez ses propos, il vient témoigner en indiquant que ce qui est important, c'est le paraître, être à l'heure, être propre, etc. Et finalement, quand il discute en off avec vous, il tient des propos qui sont un peu contraires.
Oui, tout à fait. Il me dit que en fait, on fait tout un entretien qui sert pas à grand chose parce qu'il a le même discours que ce qu'il avait devant les jeunes. Et au moment où je vais pour éteindre le dictaphone, il me dit non mais enfin ça, c'est ce que je dis pour l'émission locale. Et donc là, du coup, je n'éteins pas du tout le dictaphone et on refait finalement un deuxième entretien dans lequel il me dit le fond de sa pensée en me disant non mais de toute manière, moi non plus, je les embaucherai pas et personne veut d'eux, ils ont pas de voiture, ils sont mal vus. Et il commence à m'expliquer ce qu'il pense réellement de ces jeunes-là et que finalement, le fait d'être motivé, d'être ponctuel et d'être propre sur soi, ça suffit pas. Aujourd'hui, et c'est une réalité très largement partagée, hein, que on a des grandes problématiques d'inflation du niveau de diplôme, d'accès à l'emploi, auxquelles la jeunesse fait face et va devoir encore plus faire face.
Justement, le monde du travail, c'est un monde où il y a beaucoup de théories autour de ces questions de management intergénérationnel. Vous avez quel avis sur le sujet ? Est-ce que c'est des pratiques qui vous semblent cohérentes ou pertinentes ?
Sur le management intergénérationnel, je crois que le grand risque, c'est d'essentialiser et en fait mettre des représentations, nos représentations de la jeunesse sur à certains groupes. Ce que je disais sur la jeunesse qui veut plus travailler, j'avais lu un article il y a quelques années qui était sur ma génération, les millennials, et c'était la génération Y ou la génération qui veut tout sans aucun sacrifice. Et en fait, à mon sens, on n'est plus sur des questions de management intergénérationnel, mais on est plutôt sur de la dénonciation, de dire que regardez ces jeunes qui ne veulent plus faire de sacrifices, qui veulent plus travailler, donc il va falloir faire avec, alors que la réalité elle est pas du tout là-dessus. Quand on parle aujourd'hui par exemple du fait que les jeunes ne veulent plus travailler, c'est déjà faux, et la réalité c'est qu'aujourd'hui la jeunesse en a un petit peu marre de se faire exploiter. Lorsque on propose pour embaucher des jeunes, tout ce qu'on peut proposer c'est de l'exonération fiscale ou d'être sous-payé. C'est pas forcément une débouchée qui est très alléchante. Et même, je dirais que, à la limite, si on était encore dans cette période un peu méritocratique du baby boom, où on pouvait se dire, j'ai un job un petit peu pourri pendant quelques années, mais je vais pouvoir m'investir, travailler, et moi aussi, même en étant en classe moyenne, j'aurai une maison de vacances, je pourrais m'occuper de mes trois enfants et avoir trois voitures. S'il y avait encore cette possibilité, finalement, je pense que il y aurait un investissement qui serait différent. La réalité aujourd'hui, c'est que la précarité est telle pour la jeunesse. Les places sur le marché du travail sont presque inexistantes, de plus en plus. Et donc, les jeunes en ont marre de se faire exploiter. Ils ont bien raison.
Donc, dans votre approche, finalement, on a cette vision de la jeunesse justement qui tranche avec les clichés. Est-ce que, justement, par rapport à ces boomers qui sont un peu en position privilégiée, il y a aussi des nuances. Est-ce que vous avez aussi pu croiser des boomers en galère?
Bien sûr, c'est toujours ce que je disais, il faut faire attention aux généralités. Le problème, c'est qu'il y a une incompréhension, à mon sens, quand on oppose les jeunes d'aujourd'hui et la génération du baby-boom. Ce qui n'est pas dit, c'est que les boomers sont des feignants qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ne connaissent rien à la vraie vie. C'est faux. Et il y en a qui ont connu et qui connaissent encore la misère, la précarité, des situations de vie terribles. Et ça, c'est une réalité. Le fait est que les conditions matérielles, les conditions de vie d'avoir grandi pendant le baby-boom n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Et qu'un investissement le débouché est beaucoup plus malheureux. Moi, j'avais fait le test en regardant ma fiche de salaire si j'étais né il y a une trentaine d'années, donc si j'avais commencé à travailler, quand je suis né. Et en fait, j'aurais un tiers de plus de salaire. Et on peut faire l'expérience comme ça. Aujourd'hui, pour acheter un appart, il faut en moyenne 25 ans. Si on part à la période du baby boom, on est, selon les périodes, entre 4 à 7 ans. Et toute cette expérience peut se multiplier sur plein d'aliments. Ça ne veut pas dire que, effectivement, ça n'existe pas, les personnes âgées qui sont dans de la galère. Et on sait très bien, d'ailleurs, que les personnes âgées sont extrêmement vulnérables à la pauvreté, à l'isolement et à plein d'autres éléments. Cependant, d'un point de vue génération, effectivement, la génération du baby boom, c'est une invraisemblance statistique. C'est la seule génération finalement qui semble avoir connu dans l'histoire récente une période aussi favorable.
Merci beaucoup Clément de nous rappeler qu'il est urgent de remettre en question nos idées reçues, ou Emergency, le titre de Béatrice Mélissa et de Kaba que l'on va écouter tout de suite.
Oui, bonjour, c'est BM. Mon numéro de dossier, c'est le 876-54321. Oui. Je vous ai appelé lundi et mercredi. J'ai déposé mes documents dans mon espace personnel, mais j'ai peur d'avoir coché aucune des cases.
Je cherche encore.
La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
C'était Emergency de Béatrice Mélissa Caba. Et nous sommes de retour en plateau avec Clément Réversé, maître de conférence en sociologie. Et alors, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, auditrices, vous vous préparez peut-être à affronter les discussions lors des prochains repas de famille, joie des fêtes de fin d'année qui arrivent. Ça tombe bien, Clément Réversé, vous avez publié un guide de survie pour ce genre d'occasion. Et d'ailleurs, une de vos entrées, c'est, je prends le sommaire, les jeunes sont de plus en plus violents. Alors si cette phrase sort en repas de famille, comment on fait, comment on réagit? Dites-nous tout.
Alors, le premier point, c'est que l'objectif de ce livre, c'est effectivement de prendre une idée impulsive que chercheuses et chercheurs on a pu entendre et auquel on peut avoir une réponse argumentée en quelques pages et ensuite proposer une bibliographie indicative. Moi, je me suis intéressé à cette question-là parce qu'on me l'a déjà posée, en fait, tout simplement en interview à la radio et que je ne savais pas vraiment quoi en penser. Je n'avais pas de données là-dessus. Donc je me suis mis à chercher un petit peu pour savoir si les jeunes étaient effectivement de plus en plus violents. Ce qu'on remarque, tout d'abord, c'est qu'on a un manque d'indicateurs fiables sur le temps long. C'est-à-dire qu'on a peu de manières de voir si les jeunes sont de plus en plus violents. On a des données majeures mineures, par exemple, mais pas grand-chose. Si, à la limite, on voulait pointer du doigt un groupe qui serait violent, on pourrait dire que les hommes sont de plus en plus violents, hein, 97% des agressions à caractère sexuel, très grande majorité des violences physiques, des vols avec violence, ce sont des hommes. Mais pour ce qui est des jeunes, en réalité, on a soit des indicateurs qui nous disent qu'on ne peut pas avancer grand-chose, soit des indicateurs qui nous montrent que en réalité, les jeunes ne sont pas si violents, voire un petit peu moins. On le voit, et c'est la critique un petit peu paradoxale de la jeunesse qui, d'un côté, on dit qu'elle sent sauvage, qu'elle est de plus en plus terrible, et en même temps, qu'elle est de plus en plus coincée sur depuis MeToo, depuis ces questions-là. Si on prend par exemple les questions des violences faites aux femmes, ces dernières, elles ont explosé dans les enquêtes déclaratives depuis 2016-2017, après le mouvement MeToo. Ça ne veut pas dire que d'un coup les violences ont explosé, mais ça veut dire qu'on en parle beaucoup plus. Et ça nous fait un petit peu relativiser et nous dire que la réalité derrière, c'est pas que la jeunesse est de plus en plus violente. On a deux fois moins de chances de se faire assassiner en France aujourd'hui que dans les années 90, même si ça déplaît à une partie du monde politique. On a 11 fois moins de chances de se faire assassiner qu'au Moyen-Âge, qui était une période d'une violence assez terrible. Bref, les choses s'arrangent globalement, mais ce qui nous change réellement, finalement, c'est notre rapport à la violence. Nous sommes, en tant que société, plus sensibles à la violence. Et c'est une bonne chose, le fait de considérer que les violences conjugales sont inacceptables, que mettre un coup de poing, une claque à un enfant, c'est inacceptable, que les viols, que la pédophilie, que ces éléments-là sont considérés comme complètement inacceptable alors qu'on pouvait avoir des discours ouvertement pédophiles, par exemple à la télé dans les années 60-70. Pour moi, ça montre plutôt qu'on va vers une société qui est sensible à ces questions-là plutôt que vers un ensauvagement globalisé de la société.
Alors je rappelle que cet ouvrage, il est collectif, donc ça c'est une des entrées que vous avez écrites, il y en a d'autres, comme le trou de la sécu, c'est que de la fraude, les chômeurs veulent juste profiter du système, légaliser les drogues, c'est dangereux, on va pas donner toutes les réponses, hein, parce que si ces phrases-là sortent au moment des repas de famille, il faut avoir le bouquin. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a une bibliographie qui donne des ressources pour aller plus loin, pour aller explorer aussi ces sources scientifiques, puisque tout est sourcé, bien sûr. Et il y a cette première entrée, hein, ce premier chapitre, qui est la phrase avec laquelle j'ai commencé cette émission, « Les jeunes ne veulent plus travailler ». Et ça parle donc des tensions générationnelles autour de l'activité professionnelle. Comment on fait pour essayer de rester zen dans ce genre de situation et de discussion ?
Nous, la démarche qu'on a eue avec ce livre, c'est pas de faire quelque chose de très hiérarchisant, de rabaisser en disant voilà des données et tu as entièrement tort. Pour nous, on essaie de le penser plutôt comme lorsqu'on est bloqué dans une boucle argumentaire où aucun des deux camps a de quoi répondre, voici des éléments, voici des données sur lesquelles on peut réfléchir et si on pense au travail de Dominique Méda qui nous a fait l'honneur de donner le premier chapitre de cet ouvrage collectif, et ben ce qu'elle montre finalement, c'est que le ressenti qu'on peut avoir dans notre expérience, il correspond pas à la réalité. Les chiffres que j'aime bien donner, alors les économistes ont les cheveux qui commencent à hérisser, mais c'est de dire qu'on est à peu près 3 millions de chômeurs en France et en équivalent temps plein, on est à 400 000 postes disponibles. Donc on est sur une équation qui ne fonctionne pas. Et donc, de manière générale, il faut repenser notre rapport au travail et il serait erroné de dire que les jeunes ne veulent plus travailler aujourd'hui. Je pense que la réponse à ça vient sur comment finalement discuter ensemble, vient aussi avec le dernier chapitre du livre. Je vais commencer à spoiler l'intégralité du livre, c'est terrible pour les ventes. Mais le dernier chapitre, il est fait par François Dubé, qui est professeur des universités émérites à Bordeaux et qui dit que finalement, s'il y a une incompréhension aussi importante, c'est notamment parce que lorsque l'on donne des grandes règles sociologiques, si je vous dis par exemple que les jeunes sont de moins en moins violentes, ça correspond pas forcément à l'expérience des individus. Si je me suis fait agresser il y a 2 semaines et que j'entends un sociologue me dire que les jeunes sont de moins en moins violents, eh ben je vais lui dire que si, dans mon expérience, c'est le cas. Parce que finalement, les sciences sociales sont des sciences qui sont les moins généralisables, sur lesquelles on a des tendances générales, mais qui peuvent toujours être contredites par des expériences individuelles. Et donc, l'intérêt, c'est aussi d'écouter ces expériences individuelles. Et c'est de ne pas rejeter le fait que les personnes aient pu vivre ou puissent penser des choses, mais c'est de, lorsque l'on pense de manière plus large en tant que société, d'avoir un discours ouvert et sur lequel on puisse avoir un raisonnement scientifique.
Alors, il ne faudrait pas penser, en lisant votre livre, que le clash des générations est toujours aussi vif et que on va forcément se disputer à Noël. J'espère pas. Non, bien sûr. Et ces discussions, là, d'ailleurs, pourraient laisser penser que le passage d'une génération à une autre est toujours une question de rupture. Mais en réalité, on peut l'envisager comme une continuité. Et si ce que nous vivons, nos émotions, nos peurs, nos réactions n'étaient pas seulement les nôtres, et si une partie venait même d'un héritage invisible de nos ancêtres, c'est un sujet passionnant, mais qui reste controversé, que tu as choisi d'explorer pour ta première chronique, Élodie.
Et oui, Sophie, je vous emmène avec moi pour quelques minutes. Imaginez une émotion qui traverse le temps. Un traumatisme vécu par un grand-parent qui laisserait une trace dans le corps ou le comportement de ses petits-enfants. Cela ressemble presque à de la science-fiction et pourtant c'est aujourd'hui un vrai sujet de recherche scientifique. La transmission des traumatismes d'une génération à une autre est un thème exploré par de nombreux chercheurs, mais aussi largement discuté et parfois contesté.
Alors comment ça marche cette histoire d'héritage invisible ?
Eh bien, portons-nous un héritage qui ne se résume pas à la couleur des yeux ou à la forme du nez. Au-delà de cet héritage biologique, il y aurait aussi un héritage psychologique et émotionnel. Et c'est là qu'intervient l'épigénétique. La science qui étudie comment nos expériences et notre environnement peuvent activer ou désactiver certains gènes, sans changer l'ADN lui-même. Deux chercheurs sont pionniers dans ce domaine, Michael Minet, neurobiologiste canadien, et Moshe Zif, généticien spécialisé en épigénétique et professeur au département de pharmacologie et thérapeutique de l'université McGill à Montréal. Et dans les années 2000, ils ont mené une expérience sur des rats. Résultat, quand des mères étaient stressées pendant leur grossesse, leurs enfants portaient en eux un système de gestion du stress modifié. Même confiés à des mères non stressées, ces marques restaient visibles. Et quelle était leur conclusion ? Eh bien, le stress laisse une trace biologique durable et cette trace peut influencer le comportement à long terme. Et chez l'être humain, la chercheuse la plus citée est Rachel Yehuda, psychiatre américaine et spécialiste des traumatismes intergénérationnels. Elle a étudié les enfants de survivants de l'Holocauste et observé des marqueurs hormonaux différents, comme si leur corps s'était préparé au danger. Ça ne veut pas dire que le traumatisme se transmet tel quel, mais qu'il pourrait laisser une empreinte.
C'est tout à fait fascinant. Et alors, du côté de la psychologie de ces enfants, on en dit quoi ?
Eh bien, en psychologie, un spécialiste incontournable est cité, c'est Bessel van der Kolk, clinicien américain, chercheur et enseignant pionnier dans le domaine du stress post-traumatique, pardon. Il a écrit « Le corps n'oublie rien » et a fondé le Trauma Center aux États-Unis. Pour lui, le traumatisme s'inscrit dans le corps et l'esprit. Un parent traumatisé peut développer de l'hypervigilance, anxiété ou au contraire une coupure émotionnelle. Et les enfants observent et reproduisent ces comportements. Et dans les familles traumatisées, on retrouve souvent stress chronique, précarité, insécurité, attachement perturbé. Et tout cela influence la génération suivante.
Mais alors si on a des travaux scientifiques qui se multiplient sur le sujet, pourquoi la communauté scientifique reste encore un peu divisée ?
Parce qu'il manque encore des certitudes, puisque chez l'être humain, on ne peut pas suivre 4 générations pendant des décennies comme chez des rats, qui se reproduisent 2 fois par an. C'est une recherche qui doit se faire sur un temps très long. Or, l'épigénétique est très sensible, puisqu'un changement de milieu, et tout bouge. Et il est difficile de distinguer ce qui vient du biologique et ce qui vient de la psychologie. Mais par contre, il y a un consensus qui existe. La communauté scientifique s'accorde à dire que le trauma laisse des traces biologiques et psychologiques, que l'environnement parental influence énormément et que les modèles animaux montrent des transmissions possibles. Mais chez l'être humain, tout n'est pas encore clair.
Alors si certains traumatismes peuvent traverser des générations, on ne sait pas encore chez l'humain, c'est ce que tu viens de nous expliquer, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand même pour s'en sortir ?
Eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné. Les recherches de Bessel van der Kolk et d'autres spécialistes montrent qu'on peut réapprendre au corps à se sentir en sécurité grâce à, par exemple, la thérapie corporelle, aux psychothérapies comme l'IFS, qui est l'Internal Family System, qui considère la psyché comme composée de sous-personnalités ou parties, chacune ayant ses propres besoins et émotions. On a encore le MDR, qui est la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. Et donc, en somme, les thérapies autour du trauma et surtout des approches sécurisantes. Et l'épigénétique nous apprend aussi que si un traumatisme peut modifier l'expression des gènes, un environnement sécurisant peut le modifier aussi. C'est pour ça qu'il faut continuer la recherche. Mieux comprendre, mieux prévenir, mieux soigner et peut-être éviter certaines transmissions. Et s'il vous arrive qu'une émotion vous dépasse, pensez à ce lien invisible qui nous relie à nos ancêtres. Souvenez-vous qu'on peut le transformer.
Merci Elodie pour cette conclusion qui donne de l'espoir.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Et merci encore Elodie pour cette chronique. Clément Réversé, est-ce que vous souhaitez réagir à ce sujet de la mémoire intergénérationnelle ?
À mon sens, ça montre l'importance d'avoir du travail qui puisse être transdisciplinaire et de comprendre que, en fait, les sciences ne sont pas des blocs monolithiques et imperméables, mais qu'on a besoin de travailler et on aura de plus en plus besoin de travailler entre les sciences humaines et sociales et les sciences dites fondamentales. Et ça ouvre des perspectives qui, à mon sens, sont passionnantes.
C'est une dernière question pour conclure. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est condamnée à devenir les vieux cons de demain ? Est-ce qu'on peut s'éduquer pour éviter ça ?
J'espère que non. Et c'est une question que je me pose. Est-ce que je deviendrai un vieux con qui râle sur les générations qui viennent en me disant que finalement c'était bien mieux avant. Je crois que on a tendance parfois à oublier certains aspects négatifs de nos générations et d'idéaliser la jeunesse qu'on a pu avoir. On a tendance à ne pas se rendre compte aussi quand on est jeune de certains dangers, de certaines mises en garde qu'on conscientise progressivement avec l'âge, et donc on a l'impression que le monde petit à petit devient de plus en plus sombre et de plus en plus terrible. Je crois aujourd'hui au contraire que il y a un besoin d'écouter la jeunesse qui est certes en colère et qui a des raisons d'être en colère, et à mon sens le fait que les jeunes soient en colère, qu'aujourd'hui ils se mobilisent, on le voit avec les manifestations, avec les drapeaux One Piece, etc., pour moi c'est une réponse plutôt positive au monde actuel. C'est une jeunesse qui n'est pas apathique, c'est une jeunesse qui ne veut pas se laisser faire, et face à la multiplication des crises, des situations terribles d'inégalité qui montent, eh bien, peut-être, et je l'espère, que la jeunesse d'aujourd'hui et de demain trouvera le courage de répondre à toutes ces problématiques.
Merci beaucoup Clément Réversé d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci donc à Clément Réversé, sociologue et auteur de deux livres sur le sujet des générations, La vie de Cassos et Petit guide de survie aux discussions des repas de famille, tous deux sortis en 2025 et disponibles en librairie. Merci également à Elodie et Elia pour leurs chroniques et leurs témoignages. Une émission préparée par Jérémy Frexas et Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodessavoir.fr ou nos réseaux sociaux et on se dit à très vite pour une nouvelle émission.
Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Vous aimez Radio G? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
See, I could take you to the edge of the sea. switching difference to a liquid narrative. Obviously, I tried writing you out of the will.
Radio G
101.5 FM.